Un rayon de soleil en plein cœur de ceux qui sont dans le malheur, c'est Jésus qui revient. Une chanson pour sécher la pluie qui coule sous les joues des meurtris, c'est Jésus qui revient. La porte, car il veut apporter son amour sincère et sa paix. Ouvre-lui la porte, car il veut t'emporter avec lui dans l'éternité. Un espoir nouveau de délivrance pour ceux qui sont dans la souffrance, c'est Jésus. Lancer vers le ciel pour rendre gloire à l'Éternel, c'est Jésus qui revient. Ouvre-lui la porte car il veut apporter son amour sincère et sa paix. Ouvre-lui la porte car il veut t'emporter avec lui pour l'éternité.
Merci Stéphane, c'est notre seul musicien ce soir, on te remercie beaucoup, Dieu te bénisse. Notre frère Richie est parti en Auvergne parce qu'il est allé à l'enterrement de sa belle-mère avec toute sa famille, que Dieu les bénisse là-bas, gloire à Dieu. Notre sœur Sandrine a pu prier avec sa maman avant qu'elle ne parte et ça c'est une grande consolation, une grande joie. Amen. Gloire à Dieu. Et ce soir, eh bien voilà, j'ai un message un peu étrange. On va reprendre là où on l'avait laissé, notre étude sur le sermon sur la montagne, donc dans Matthieu chapitre 5. Je vous invite à vous lever pour lire la Bible. Matthieu 5, 43 à 48. On ne va pas tout voir ce soir. On va en voir d'abord une première partie et dimanche, je terminerai. Verset 43. Vous avez entendu qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu détesteras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Alors vous serez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les mauvais et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense aurez-vous? Les collecteurs des taxes eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Et si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les non-juifs eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Vous serez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Amen. Amen. Aimez notre prochain. Aimez notre prochain. Pour un juif, ça voulait dire aimer les juifs. Tiens, on va lire Lévitique 19, 17, 18. Vous allez mieux comprendre. Lévitique, j'ai dit combien ? 19, 17, 18. Alors, tu ne détesteras pas ton frère dans ton cœur, tu avertiras ton compatriote, mais tu ne te chargeras pas d'un péché à cause de lui. Tu ne te vengeras pas, tu ne garderas pas de rancune envers les gens de ton peuple, tu aimeras ton prochain comme toi-même, je suis le Seigneur Yahvé. Mon prochain, c'est comme ça qu'ils pensaient alors. On les enseignait comme ça. Mon prochain, c'est mon frère, c'est mon parent, c'est un compatriote, c'est quelqu'un de mon peuple, c'est quelqu'un de ma religion, c'est quelqu'un de ma race, voilà. Hein? Et c'était ainsi que les Juifs étaient enseignés. D'ailleurs, au temps de Jésus-Christ, c'était toujours pareil. Les religieux enseignaient toujours ça. Parce que, rappelez-vous, par exemple, ne serait-ce qu'avec les Samaritains, ouh là là, les Samaritains, c'était... Mais il faut dire quand même que les enseignants n'enseignaient pas à en croire Jésus, ce que la loi disait véritablement à propos de ceux qui ne sont pas juifs. On va lire le verset 34. Le verset 34, il dit « Vous traiterez l'immigré qui séjourne avec vous comme un autochtone d'entre vous. Tu l'aimeras comme toi-même, car vous avez immigré en Égypte. Je suis le Seigneur Yahvé, votre Dieu. Ça, par contre, on le mettait un peu de côté. Vous voyez, il est nécessaire encore aujourd'hui que vous étudiez vous-même les Écritures afin de ne pas être trompé par des gens qui ont des intérêts. Les religions ont souvent manipulé les peuples pour pouvoir les diriger comme ils voulaient eux-mêmes. Tiens, on va lire Exode 23, 4, 5. Exode 23, 4, 5. S'il t'arrive de voir le bœuf de ton ennemi ou son âne égaré, tu le lui ramèneras. Lorsque tu vois l'âne de ton ennemi se coucher sous sa charge, tu ne l'abandonneras pas, tu l'aideras à le décharger. Cette loi d'Exode 23, 4, 5, on la retrouve un peu plus loin dans Deutéronome 22, 1, 4, à peu près mot pour mot, mais cette fois dans Deutéronome, c'est au sujet de ton prochain. Là, c'est au sujet de ton ennemi. Ton prochain, d'après la loi de Moïse, donc, c'est aussi bien une personne de ta communauté, de ton ethnie, que un étranger à ta communauté, à ton pays même. Et même, ça peut être un ennemi. Mais ça, les religieux ne l'enseignaient pas clairement. Et c'est pourquoi Jésus dit, et ce n'est pas pour rien qu'il dit, c'est pour ça qu'il dit, mais moi je vous dis. Parce que il dit, vous avez entendu dire, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Paul, qui avait été rabbin, il avait fait partie de ce groupe de religieux. Il savait très bien ce qui se manigançait, il savait très bien ce qui s'enseignait. Et aux chrétiens de Rome, il leur écrit, vous trouvez ça dans Romains 12, 20, un texte qu'il a pris dans l'Ancien Testament, dans les Proverbes, au chapitre 25, au verset 1, et qui dit, « Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger, s'il a soif, donne-lui à boire. » Ce n'est pas le Nouveau Testament, ça, c'est l'Ancien Testament, ça aussi. Alors évidemment, on peut dire, oui, mais les religieux, tout ça, la guerre en Israël, toute la guerre d'Israël contre les Cananéens, ça justifie ce que les pharisiens, les religieux enseignaient, n'est-ce pas? Parce que, bon, maintenant, je crois qu'il est bon qu'on vienne une fois sur ce sujet, pas une fois pour toutes, on y reviendra sûrement, mais je crois qu'il faut pas se voiler la face. Il faut qu'on en parle. Pourquoi? Il est bon de se souvenir de pourquoi il y avait ces guerres en Israël contre les Cananéens. La religion des Cananéens était abominable. Leur culture était complètement, ils étaient complètement corrompus. Leur pays même les avait vomis. C'est écrit, hein? C'est ce que nous apprend la Bible. Et si vous êtes curieux, si vous voulez en être sûr, ben vous irez lire dans Lévitique 18, 21, 28, vous allez être édifié de voir la merveilleuse culture des Cananéens, leur merveilleuse religion qui allait jusqu'à sacrifier des enfants, enfin bon, toutes sortes de choses. Cette religion et cette culture était abominable et Dieu ne voulait pas qu'Israël se corrompe de cette manière-là. Et c'est pourquoi les Cananéens ont été chassés du pays et Dieu dit à son peuple, vous observerez toutes mes prescriptions et toutes mes règles, vous les mettrez en pratique, ainsi le pays ne vous vomira-t-il pas si vous mettez en pratique ce que je vous dis. Verset 24, il dit, je vous ai dit, c'est vous qui prendrez possession de leur terre. Je vous la donnerai moi-même, c'est Dieu qui dit ça, en possession. Je suis le Seigneur Dieu, c'est moi qui vous ai séparé des peuples. Mes frères et sœurs, les guerres d'Israël ont été les seules guerres saintes. Il n'y en a Maintenant, on peut dire que c'est une guerre sainte, c'est faux, il n'y a que une seule guerre sainte. Il n'y en a pas eu d'autres. C'était les guerres de Dieu. Les guerres de Dieu contre les idoles, contre le monde des idoles. Mais quand Jésus est arrivé, il a annoncé, il a inauguré un temps où c'est fini, il n'y a plus de guerre sainte, c'est terminé. Il n'y a plus de guerre de religion. Il peut y avoir des guerres de religion à cause des religieux, mais ce n'est en tout cas pas Dieu qui leur dit de faire ça. En aucun cas. Quand vous lisez les paroles des prophètes de l'Ancien Testament, ces prophètes-là, ils n'exprimaient pas leur animosité personnelle. Ces prophètes-là, ils parlaient de la part de Dieu, dans un contexte tout à fait différent du nôtre. Les méchants, ce n'étaient pas leurs ennemis à eux, ce n'étaient même pas les ennemis d'Israël, c'était les ennemis de Dieu. Et les prophètes, ils comptent les ennemis de Dieu pour leurs ennemis parce qu'ils se rangent du côté de Dieu, ils s'identifient à la cause de Dieu. Mais ce n'est pas leurs ennemis à eux directement. Je vais vous dire une énormité. Les prophètes, ils haïssent les ennemis de Dieu parce qu'ils aiment Dieu. Ils haïssent par amour. Vous voyez, voilà pourquoi il est nécessaire, voilà pourquoi j'ai prié bien spécialement ce soir avant de commencer la réunion. Parce que c'est très délicat. C'est très délicat. Vous vous souvenez du psalmiste? Il considère que cette haine est une haine qui est née de la perfection même de Dieu. Et il en est troublé. Il en est troublé. Et il dit, « Oh Dieu, sonde-moi pour voir s'il y a de la méchanceté en moi. » Enfin, on va le lire, c'est dans psaume 139, si vous voulez, avec moi. Psaume 139. C'est mieux de lire directement dans la parole de Dieu. Psaume 139, verset 19 à 24. « Oh Dieu, si seulement tu faisais mourir le méchant !» Homme sanguinaire, écartez-vous de moi. Ils parlent de toi selon leurs astuces. Ils t'invoquent pour tromper, eux, tes adversaires. Seigneur, comment ne détesterais-je pas ceux qui te détestent? Comment n'aurais-je pas du dégoût pour ceux qui se dressent contre toi? Je les déteste totalement, dans d'autres versions, d'une haine parfaite. Ils sont pour moi des ennemis. Puis après, il dit, examine-moi au fond, ô Dieu, et connais mon cœur, sonde-moi et connais mes préoccupations. Regarde si je suis sur une voie mauvaise et conduis-moi sur la voie de toujours. » Vous voyez, il a un trouble. Il a un trouble. Et c'est subtil tout ça. David lui-même se sent troublé. L'Esprit de Dieu qui est en lui discerne que ce sont des ennemis de Dieu et que Dieu veut les anéantir, mais lui-même, alors il est du côté de Dieu, évidemment, puisqu'il aime Dieu, mais en même temps, il a cette haine qui vient là, et ça lui semble tellement contraire, n'est-ce pas? Alors il est troublé. Et nous autres chrétiens, on peut parfois être troublés. Si on l'est, mes frères et sœurs, c'est parce que notre vie spirituelle est bancale, c'est parce qu'il y a une insuffisance dans notre vie spirituelle. Il faut être ferme. En vérité, les gens méchants doivent à la fois être l'objet de notre amour et de notre haine. Si quelqu'un vient et écoute seulement cette phrase sur cette prédication, il va être choqué, hein. Écoutez bien ce que j'ai à vous dire. Les gens méchants doivent à la fois être l'objet de notre amour et de notre haine, tout comme Dieu les aime, mais les hait aussi. Ce n'est pas une nourriture facile à avaler, n'est-ce pas, ce que je vous dis ce soir. Mais il ne faut quand même pas oublier que la Bible entière nous dit qu'ils sont l'objet de la colère de Dieu. Les aimer, c'est quoi? C'est désirer réellement qu'ils se repentent, c'est désirer réellement qu'ils croient, c'est désirer réellement qu'ils soient sauvés. Et les haïr, c'est trouver finalement que c'est juste, que s'ils ne se repentent pas, s'ils ne changent pas, eh bien, ils arriveront au tribunal de Dieu qui les condamnera. On n'est pas appelé à être des doux sentimentaux, on est appelé à être cohérent. Dieu a une juste colère. Dieu a une haine parfaite. Et cette colère et cette haine, elle s'exprime contre ses ennemis, jamais contre nos ennemis. Vous voyez la nuance? Alors, c'est aussi dur à avaler, surtout quand on a un bébé spirituel, n'est-ce pas? Une telle chose. Parce qu'en nous, ce que Dieu veut en nous, il veut que nous qui sommes sur la terre, en nous il n'y ait pas de rancune, en nous il n'y ait pas de malveillance, en nous il n'y ait pas d'esprit de vengeance. Mais en nous-mêmes, on a quand même le souci de la gloire de Dieu, on a le souci de son honneur, on a le souci de nos frères et sœurs qui sont persécutés. Quand on lit ce que les martyrs juifs ont dit, ce qu'on voit dans Apocalypse, au chapitre 6, versets 9, 8, ce qu'ils disent les martyrs sous l'autel, qu'est-ce qu'ils disent ? 6, 9, 10. Quand il ouvrit le cinquième sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et du témoignage qu'ils avaient porté. Ils crièrent, « Jusqu'à quand, Maître Saint et vrai, tardes-tu à juger et à venger notre sang en le faisant payer aux habitants de la terre ?» Vous voyez, mes frères et sœurs, quand on est là, on n'est pas tellement persécuté. Mais il faut être cohérent, il faut savoir, il faut préparer nos cœurs à toutes ces sortes de choses, parce qu'il faut être cohérent. Qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va réagir? Comment Dieu veut-il que nous réagissions en cas de persécution, en cas de malheur, en cas d'une horreur qui pourrait arriver? Vous voyez, cette haine des ennemis de Dieu, elle finira un jour par s'exprimer. Et le jour où Dieu les détruira tous, on va lire ce que nous on va dire, ce que vous allez dire. Vous, les chrétiens. Apocalypse 19, 1, 3. Il faut être cohérent. Après cela, j'entendis comme la voix forte d'une grande foule dans le ciel qui disait « Alléluia ! Le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu, parce que ses jugements sont vrais et justes. Il a jugé la grande prostituée qui ruinait la terre par sa prostitution et il a vengé le sang de ses esclaves. » En le lui réclamant, ils dirent une seconde fois, « Alléluia, sa fumée monte à jamais. » C'est nous qui allons dire ça. C'est les enfants de Dieu qui vont dire ça. Et pourtant, il nous est dit, ici, nous devons les aimer, nous devons les bénir, nous devons prier pour eux. Mais nous savons qu'un jour, il va y avoir un jugement. Alors, il ne faut pas se tromper. La haine parfaite ne justifie pas notre manque d'amour. La haine parfaite ne justifie pas notre manque d'amour pour ceux qui n'aiment pas Israël, pour ceux qui n'aiment pas le peuple chrétien, pour ceux qui n'aiment pas le seul vrai Dieu. Le seul vrai Dieu aime Israël et le peuple chrétien. Alors Jésus s'est opposé fermement. Et il a dit, tu haïras ton ennemi, mais c'est moi je vous dis, aimez vos ennemis. Fermement. Et plus loin, il va encore attaquer ces religieux corrompus en leur racontant la parabole du Samaritain. Alors, il les enfonce bien parce qu'il leur dit, les religieux, lui, le religieux, il a passé avec sa grande sainteté. Par contre, un Samaritain, celui que vous rejetez, celui que vous dites qu'il n'est rien du tout, un hérétique, un machin, eh ben lui, là, c'est lui qui a pris soin. Et votre prochain, c'est qui? Dans cette parabole, Jésus montre que notre prochain, ça n'est pas forcément quelqu'un de notre race, ce n'est pas quelqu'un forcément de notre rang social, ce n'est pas quelqu'un forcément de notre religion. Le vocabulaire de Dieu, dans le vocabulaire de Dieu, notre prochain inclut notre ennemi. Il faut s'en souvenir. Alors, quel est notre devoir envers notre prochain? Voilà, qu'il soit ami ou qu'il soit ennemi, quel est notre devoir? Alors, j'aime bien ce que Luc rapporte au sujet du sermon sur la montagne. Et notre amour, d'après Luc, il s'exprime par des paroles, par des prières et par des actes. Aimez vos ennemis, faites du bien. Vous trouvez ça dans Luc 6, 27 à 35, je crois, c'est par l'auto. Nos ennemis nous font du mal, cherchons à leur faire du bien. Parce que c'est comme ça que Dieu a fait avec nous. C'est ce que la Bible nous enseigne. Romains 10, 5, 10 nous enseigne. Alors que nous étions ses ennemis, Jésus est mort à notre place afin de nous réconcilier avec Dieu. Je crois que prier pour nos ennemis, c'est atteindre le sommet de la maîtrise de soi. Ne pas accepter de prendre une initiative mauvaise face à nos ennemis, ne pas accepter de se venger, demeurer tranquille dans la souffrance, se laisser dépouiller et lui faire encore du bien et par-dessus le marché, prier pour lui, ça dépasse tout. Intervenir devant Dieu en faveur de notre ennemi. Et je crois pouvoir dire, en y pensant, que ce que Dieu nous demande, c'est de prier avant d'être sûr qu'on les aime. Parce que... N'attendez pas de sentir de l'amour pour votre ennemi avant de prier pour lui. Priez tout de suite. Priez tout de suite. Parce que quand on prie pour une personne qui nous fait du tort, qui nous fait du mal, alors quand on prie, eh bien Dieu bénit notre cœur. Dieu bénit notre cœur. L'amour peut naître. Ça donne une possibilité à l'amour de naître parce qu'on est en contact avec Dieu, la main de Dieu nous touche. Et ça donne la possibilité à l'amour non seulement de naître, mais de se renforcer aussi pour notre ennemi. Mais si on dit j'attends de l'aimer pour pouvoir prier pour lui, ça ne viendra jamais. Il faut qu'on regarde à Jésus. Jésus, il est notre modèle. On a beaucoup de chants qui nous disent « Lève les yeux, regarde à Jésus ». Jésus, sur la croix, il souffrait abominablement par toutes sortes de tortures, toutes sortes d'horreurs qu'on lui faisait subir là. Eh bien, sa souffrance n'a pas réussi à le faire taire. Malgré sa souffrance, dans sa souffrance, il a dit « Père, pardonne-leur ». Alors je demande, quelle douleur, quel orgueil, quel préjugé, quelle paresse spirituelle peut nous faire taire, pourrait nous faire taire, et afin que nous ne prions pas pour nos ennemis, quand on a un modèle comme Jésus. J'enseigne ces choses-là pour que le jour où ça se présente, on met en nous la semence nécessaire pour produire le fruit. Pour le moment, c'est facile, il n'y a personne qui nous déteste. Oh, il y a bien des gens qui ne nous aiment pas. Mais bon, pff, ça va pas, on ne nous arrache pas les ongles, hein. On peut sortir, on est sûr de ne pas se faire tirer dessus, ça va. Hein? Mais il y a des pays, c'est comme ça. Et puis Jésus continue et il dit, « C'est en faisant cela que vous manifesterez réellement que vous êtes fils de Dieu. » C'est en faisant ça. Parce qu'il dit, Dieu, il manifeste sa grâce envers les bons et envers les méchants. Hein? Alors on peut dire, « Ah bon, il manifeste sa grâce. » Alors il faut bien comprendre. Il dit, « Il fait lever le soleil sur les bons et sur les méchants. Il fait tomber la pluie sur les bons et sur les méchants. » Voyez-vous, il ne faut pas se tromper. Il y a au moins deux grâces. Il y a la grâce pour les choses terrestres et puis il y a la grâce salvatrice. La grâce salvatrice, il ne la donne qu'aux siens. La grâce salvatrice, c'est cette grâce qui nous donne la possibilité de se repentir, de croire et d'être sauvé. Et ça, il la donne qu'aux siens, cette grâce-là. La grâce faite pour que la vie ne s'éteigne pas sur la terre, le soleil, la pluie, hein, les moissons qui reviennent tout le temps, tout ça. Bon, voilà, Dieu, il l'accorde à tout le monde. Mais il y a une grâce particulière qui est réservée aux siens. Et comme nous, on ne peut pas savoir qui est un élu de Dieu ou qui ne l'est pas, alors, voilà, Jésus nous dit, aimez vos ennemis, priez pour eux, faites-leur du bien, parce que tout ce que vous pouvez faire, faites-le pour eux, et puis même priez pour le salut de leur âme. De toute façon, c'est Dieu qui décide. C'est Dieu qui décide. Prions pour que Dieu leur accorde dans sa grâce les bienfaits temporels, et prions pour que Dieu, dans sa grâce, leur accorde la repentance, si telle est sa volonté, parce que ce n'est peut-être pas forcément sa volonté. On va lire 2 Timothée 2, 24, 26. 2 Timothée... Qu'est-ce que j'ai dit? Ça n'existe pas, 24. 2 Timothée 2, 24, 26. Or, un esclave du Seigneur ne doit pas se quereller. Un esclave du Seigneur, c'est un disciple, hein? Il doit au contraire être affable envers tous, apte à enseigner, prêt à supporter le mal, qu'il corrige avec douceur les contradicteurs au cas où Dieu leur donnerait de changer radicalement pour parvenir à la connaissance de la vérité. Le terme « changer radicalement » dans vos Bibles, le plus ancien, c'est « se repentir », que Dieu leur donne la repentance. C'est Dieu qui donne la repentance. C'est Dieu qui donne sa repentance, la repentance, ou pas. Acte 11, 18 nous montre aussi que c'est Dieu qui donne aux siens, à ceux qui sont prédestinés au salut, la repentance. Paul, lui, c'était un méchant, c'était un ennemi de Dieu. Il croyait qu'il était ami de Dieu. Il était dans cette religion qui disait qu'il faut haïr nos ennemis, qu'il faut haïr ceux qui sont contre la sainte religion du pays. Alors, la Bible nous dit qu'il respirait le meurtre, mais Dieu lui accorde la repentance. Pourquoi ? Parce qu'il était prédestiné. Il était même tellement prédestiné qu'il était annoncé par une prophétie qu'on peut lire dans le Testament des 12 patriarches, le testament de Benjamin, au chapitre 11. Et je vais vous lire ça pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà une prophétie qui était donnée du temps des patriarches à Benjamin. C'est vieux, hein ? Je ne serai plus appelé loup rapace à cause de vos rapines, mais ouvrier du Seigneur, distribuant la nourriture à ceux qui travaillent à faire le bien. De ma descendance, c'est-à-dire de Benjamin, de ma descendance se lèvera dans les derniers temps l'aimé du Seigneur, écoutant sa voix, faisant le bon plaisir de sa volonté, illuminant d'une nouvelle connaissance toutes les nations. Lumière de connaissance, il foulera Israël aux pieds, le dépouillant comme un loup de ce qu'il donnera à la synagogue des nations, à l'assemblée des nations. Jusqu'à la consommation des temps, il sera dans les assemblées des nations et parmi leurs chefs, comme un chant dans la bouche de tous. Il exposera dans les livres saints son œuvre et son message. Il sera l'élu de Dieu à jamais. À cause de lui, Jacob, mon père, m'a appris ce qui suit. C'est lui qui comblera les manques de ta tribu. Voilà ce qui est dit, ce qui était prophétisé au temps de Jacob au sujet de l'apôtre Paul qui devait venir pour apporter la connaissance aux nations. Mais il a commencé par être un méchant. Eh oui. Dieu connaît tout à l'avance, mes frères et sœurs. Nous, on ne sait rien, à moins que Dieu nous instruise, mais on ne sait rien. Alors, laissons-nous instruire par le Saint-Esprit de Jésus et faisons ce qui est bien. C'est tout ce qu'on est. On peut comprendre ça, de faire le bien. Alors, faisons ce qui est bien. Dieu ne veut plus de guerre sainte. C'est fini, c'est terminé. Il ne veut plus de guerre sainte. Nous devons parler, nous devons agir et nous devons prier pour que le bien terrestre arrive à notre prochain, qu'il soit ami ou ennemi. Et on doit prier pour que nos ennemis soient poussés à la repentance en voyant la bonté de Dieu qui se manifeste. On trouve ça dans Romains 2, 4. Comment voulez-vous qu'ils voient la bonté de Dieu qui se manifeste, sinon au travers de vous? Vos ennemis peuvent voir la bonté infiniment variée de Dieu au travers de votre bonté à vous, qui se manifeste à leur égard. Voilà notre responsabilité. Ce n'est pas facile, ce n'est pas simple, c'est plus facile d'enseigner qu'à faire. Mais il faut l'enseigner, il faut le dire, afin que quand ce sera le moment, vous ayez la nourriture nécessaire, vous ayez la semence divine nécessaire dans votre cœur pour que vous puissiez le faire. Amen. Que Dieu nous vienne en aide, on se lève et on prie. Seigneur Jésus, je te remercie pour cet enseignement que tu m'as donné aujourd'hui. Et je te prie que mes frères et sœurs soient conséquents dans toutes ces choses et qu'au temps voulu, au moment où ça sera nécessaire, cette semence-là puisse prendre vie et les fortifier afin qu'ils puissent faire ta volonté, ô Dieu. Merci Jésus. Amen. Amen. Vous savez, mes frères et sœurs, dimanche après-midi, nous allons avoir une réunion spéciale. Et je veux que tout le monde soit là. Je veux que tout le monde soit là. Tous les gens de la communauté, je veux que vous soyez là. Et pour vous qui écoutez Internet, vous ne pourrez pas être avec nous et vous qui regardez la vidéo non plus, mais je vais vous faire un peu de pub. Dimanche après-midi, nous allons regarder un film qui s'appelle Amish Grâce. Vous pouvez aller sur Internet et trouver tout ça. Amish Grâce. Les Amish, ce sont des chrétiens qui vivent très simplement, comme il y a à peu près comme dans les années 1900. Même 1800, on peut dire. Ils ne veulent même pas de voiture, ils n'ont pas de téléphone, ils n'ont pas d'électricité. Mais ce sont des chrétiens authentiques, évidemment, très critiqués par les milieux, n'est-ce pas, saints. Mais moi, je sais que c'est des enfants de Dieu. Et alors, il leur est arrivé une chose épouvantable au début de ce siècle-là. Et il y a un film qui a été fait là-dessus et que notre frère Franck a pu avoir. Je suis allé à la FNAC pour demander si on pouvait l'acheter. Il n'est pas encore distribué en France. Par contre, on peut le trouver sur Internet. Alors, cherchez, vous trouverez. Amish Grâce. Nous avons la possibilité, parce que Franck a pu nous l'avoir, on va le regarder dimanche après-midi. Je veux que vous veniez regarder ça. Mais c'est inspirant, mais c'est quelque chose, mais c'est phénoménal. Et je pensais donc continuer ma série sur le sermon sur la montagne, mais je ne savais pas que j'allais parler de ça ce soir, parce que je prends à mesure, mais je me garde bien toujours de lire qu'est-ce que je vais avoir à dire la semaine prochaine. Donc, je ne savais pas du tout que j'allais prêcher ce message ce soir. Et en fait, beaucoup de choses que j'ai dites ce soir sont dans ce film-là, mais encore plus de choses, des choses magnifiques. Et vraiment, je veux que vous voyez ça, je veux que ça impressionne votre conscience au cas où des choses, si des choses vous arrivent, que vous ayez quelque chose dans votre cœur, non simplement parce que vous l'avez lu, mais que ça soit quelque chose de vivant. Alors, je vous invite donc dimanche après-midi dans la communauté, on va tous regarder ce film qui s'appelle Amish Grace. C'est très, très, très beau. Et vous qui regardez la télévision et vous qui écoutez Internet, soyez bénis aussi, faites un petit effort, vous tapotez ça sur Google et vous allez le trouver facilement. Que Dieu vous garde. À bientôt. Merci.